Bonjour à toutes et à tous. Très rapidement, je vous remercie d'être présent pour cette journée d'études les voix du corps. Nous avons commencé par le corps, puis la voix est arrivée et nous allons maintenant en parler. Très rapidement, puisqu'on va démarrer tout de suite avec Céline Lajot sur la conférence d'ouverture « Lorsque la voix fait droit du corps ». Donc je laisserai Céline venir s'installer et bien sûr cette journée d'études remercier tous les organisateurs, donc avant tout les deux laboratoires, laboratoire Forelis et le laboratoire Sécogi de l'Université de Poitiers, qui ont travaillé conjointement pour organiser cette journée d'études, bien sûr en partenariat avec l'ensemble de l'université, mais aussi le TAP, puisque c'est dans le cadre du Festival Accor. Et cette journée d'études s'inscrit depuis plusieurs années dans une proposition critique, réflexive, que l'on a intitulée Poétique et politique des corps en mouvement. Donc là, c'est la cinquième, si je ne me trompe pas. Hein ? Sixième, voilà, donc je me suis trompée, je le savais, mais l'erreur est bonne. Nous le savons tous et toutes. Donc sixième de ces journées poétiques et politiques des corps en mouvement. Donc pour cette journée d'études, vous avez bien compris que nous allons parler de la voix, du corps faisant voix, de la voix faisant corps. Et entre ce matin et cet après-midi, vous pourrez voir sur le programme aussi bien des conférences, mais aussi des tables rondes qui réuniront des universitaires, des chercheurs et universitaires, mais aussi des artistes, et notamment des artistes présents au Festival Accor. Donc je ne vais pas citer tous les noms, mais vous l'avez dans le programme. Peut-être juste une précision par rapport au programme, il y a un petit changement pour cet après-midi. La conférence de cet après-midi à 14h30, c'est bien les corps en voix, et ensuite il y a une interversion entre votre petit livret. C'est pour ça qu'on vous a joint une grande feuille. C'est ce programme-là qu'il faut suivre pour la journée. Voilà, c'est cette feuille qui est... vous dire aussi, mais là je suis désolée, normalement nous n'avons pas le droit, enfin vous n'avez pas le droit de venir avec des gobelets. Voilà, on ne peut pas boire dans la salle de conférence, donc je vous remercierai de laisser vos gobelets à l'entrée si possible. Sans tarder, j'espère que je n'ai rien oublié, Catherine. Parce que quand même, les quatre organisatrices de cette journée d'études, donc Catherine Girardin, qui est ici présente, qui se présentera tout à l'heure, parce que je risque de faire des erreurs aussi, donc qui est à terre à l'Université de Poitiers, mais qui interviendra sur un entretien qu'elle a fait avec Una Doherty, donc vous avez vu le spectacle Hop Hunt samedi. Céline Lajot, qui va donc démarrer cette journée, qui est également professeure à l'Université de Poitiers en droit, mais tu te présenteras, je pense, Céline, hein, c'est mieux. Ouais. Shirley aussi qui vient avec nous, qui nous a suivis de loin, parce que on va tout dire, hein, Shirley. elle a eu un petit bébé cette année, donc elle était avec nous et le petit bébé arrive, voilà, sa première journée d'études. Voyez, on commence tôt à l'Université de Poitiers. Les jeunes commencent tôt avec la danse et la réflexion. Emmanuel Fillonneau du TAP, notre grande Emmanuel, hein, qui nous suit sur la journée d'études, mais sur l'ensemble du festival. Et puis moi-même, qui ai donné un peu de mon temps aussi pour organiser cette belle journée. Donc je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée, beaucoup de temps de réflexion, de voix, et je remercie encore Claire qui va comme ça ponctuer, rythmer, c'est important, notre journée aussi avec le corps, et nous mettre en mouvement, nous réveiller et nous mettre surtout aussi en disponibilité pour écouter ces belles paroles. Céline, je te donne la parole, c'est à toi. Merci. Pardon, j'ai oublié, je remercie aussi beaucoup, bien sûr, François Debien, qui nous a permis d'accueillir la journée d'études ici à la MSHS. Donc un grand merci, François, pour tout ce que tu as fait pour organiser tout cela, mais également le service immédiat et le service communication de l'université, qui est ici présent toute la journée pour filmer cette journée d'études, qui sera revue ensuite sur la chaîne YouTube. Et puis, alors peut-être tu le diras, Céline, oui, des étudiantes qui ont accepté aujourd'hui de traduire toute la journée d'études en espagnol pour nos amis espagnols et mexicains. Donc un grand merci à vous toutes et tous, et excusez-moi pour cet oubli de ce matin.
Merci Isabelle, merci à tout le monde d'être là, c'est une grande satisfaction évidemment dès lors qu'on organise un événement de ce type-là, c'est presque un rendez-vous maintenant très régulier et c'est toujours avec un immense plaisir que nous croisons les disciplines et croiser des disciplines comme droit et art du spectacle, c'est pas un... A priori, très courant et très facile, mais ça se fait, et ça se fait pour le plus grand de nos plaisirs. Des remerciements alors à toutes les organisatrices, tous les organisateurs, tous les amis ES aussi, François Debien de la MSHS, sans qui cette journée aussi ici n'aurait pas été possible, et dans ce lieu qui est un très très joli lieu. Des remerciements pour le Forelis et sa directrice qui est présente ici, Charlotte, merci beaucoup. Le Forelis qui soutient cette journée d'études aux côtés du SECOJ, qui est le laboratoire de recherche auquel j'appartiens. Merci au TAP et puis surtout merci aux artistes qui nous donnent la possibilité encore et toujours de réfléchir sur leur art. Alors le sujet de la voix du corps m'a permis d'explorer un champ du droit que je ne connaissais pas encore, je dois vous l'avouer, et que j'ai choisi de formuler sous ce titre « Lorsque la voix fait droit du corps ». Autrement dit, comment la voix peut-elle faire droit du corps ? De toute évidence, le droit a son mot à dire dans le rapport entre voix et corps, ne serait-ce que parce que la voix est un prolongement du corps. Poser le problème ainsi questionne en tout premier lieu le sens donné au droit à disposer de son corps et suscite une réflexion, cette réflexion que la voix est un support possible de l'expression. Mais le sujet nous a aussi poussé à réfléchir les choses sous l'angle de plusieurs autres protections juridiques et qui se superposent, ce qui rend évidemment parfois les choses un peu complexes, le droit au respect de votre vie privée, le droit d'auteur et de ce qu'on appelle les droits voisins du droit d'auteur, et puis enfin le droit des données personnelles. Ce titre, il nous a amené à nous poser aussi plusieurs questions et à envisager le sujet sous plusieurs angles. Le sujet questionne d'abord la voix du corps, c'est-à-dire la voix ancrée dans le corps, votre corps, le mien. Mais le sujet, il questionne aussi la voix sans corps. Et l'on pense ici à ces voix robotiques, à ces voix synthétiques et qui se multiplient aujourd'hui autour de nous. Enfin, le sujet invite à s'intéresser à la voix d'un autre corps, et l'on pense là au sujet, au problème de synchronisation, de doublage, d'interprétation, lorsque l'artiste est traducteur-interprète. Et je réitère mes remerciements ici à nos étudiants juristes linguistes qui traduisent intégralement cette journée en espagnol aujourd'hui. Merci beaucoup Karina en cabine et puis Vanessa qui la rejoindra. J'ai cherché par quels moyens et quand les chorégraphes commençaient à être protégés par le droit. C'est très récent en fait. En France, hein, oui, cette protection légale pour le chorégraphe, elle apparaît pour la première fois dans la doctrine et dans la jurisprudence. La doctrine, c'est les savants du droit, c'est les universitaires, c'est ceux qui commentent le droit, et puis la jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions de justice. Et ça remonte à une vieille loi révolutionnaire, 1791, une loi relative au spectacle. Et on peut discerner pour la première fois une protection légale pour la chorégraphie stricto sensu dans un jugement de 1962 du tribunal civil de la Seine, mais seulement dans la mesure où elle s'inscrit dans une œuvre de genre théâtral telle que le ballet d'action. Jusqu'en 1957, les chorégraphies ne sont pas protégées ni par le copyright, qui est plutôt le droit anglo-saxon du droit d'auteur, ni par les droits d'auteur à la française en tant qu'œuvre, une œuvre à part entière. En France, c'est la législation de 1957 sur la propriété littéraire et artistique qui va étendre les droits d'auteur aux chorégraphies. En 1987, une loi sur les droits voisins du droit d'auteur instituant des droits aux artistes interprètes voit le jour. Et puis en 1992 est créé ce fameux code de la propriété intellectuelle. La protection est somme toute très récente. Alors de prime abord, la protection de la voix, elle peut se faire premièrement parce que les juristes appellent le droit de la personnalité. Les juristes considèrent aujourd'hui, dans leur grande majorité, que cette voix, elle est assimilable à l'image. Mais pas tout à fait, parce que la voix reste largement contingentée à une atteinte qui serait portée à la vie privée. On reviendra sur cette idée. La protection de la voix, elle est aussi, en principe, plus volontiers celle des personnages publics. Car il faut pouvoir attribuer ou identifier cette voix. Mais si l'artiste n'est pas intervenu pour autoriser l'usage de sa voix à des fins commerciales, pour la publicité hein, par exemple, il existe de ce fait une possibilité de recours. Mais les droits de la personnalité ne rejailliront bien entendu que si un tiers fait une utilisation de cette voix. La protection de la voix, elle peut aussi se faire par ce que l'on appelle les droits voisins des artistes-interprètes, mais cette protection ne peut être activée que s'il existe, au sens juridique du terme, une œuvre. Et l'on peut se trouver là en face d'une dénaturation de l'interprétation ou d'une exploitation illicite d'une œuvre. On pourrait éventuellement aussi être face à l'application du droit d'auteur pour une œuvre créée de toute pièce. Et on pense ici évidemment au cas d'un imitateur, d'un auteur, de son sketch par exemple. Alors au-delà de ces premières protections juridiques qui sont très ciblées, l'on constate que, longtemps ignoré en droit français, le corps humain a fait l'objet d'une reconnaissance spectaculaire avec les lois bioéthiques à partir des années 1994 et elles ont été actualisées très fréquemment, ces lois bioéthiques, jusqu'à la dernière en date, 2021. La loi de 1994, elle a sacralisé le corps humain dans un nouvel article 16-1 du Code civil qui reconnaît le droit au respect de son propre corps et qui pose deux principes d'ordre public, l'inviolabilité d'un côté et l'indisponibilité du corps humain de l'autre. En raison de son inviolabilité, le corps doit être protégé évidemment contre toute forme d'atteinte par des tiers. Sa violabilité fait l'objet d'incriminations pénales, notamment celles évidemment de coups et blessures volontaires. En raison de son indisponibilité maintenant, le corps humain est en principe hors de commerce. Il ne peut être ni aliéné, ni partiellement, ni totalement, ni ses organes ou produits ou éléments. Dans ce paysage du corps humain, quid de la voix ? Où se situe la voix ? Alors chacun a droit au respect de son corps, c'est l'article 16-1 du Code civil qui l'impose. Et là, comme l'indique d'abord un premier auteur qui connaît très bien ce sujet, Xavier Bioy, qui est un juriste de Toulouse, un publiciste, il dit, je le cite, « Cette disposition ne date que de 1994. Pendant longtemps, en effet, le droit a ignoré le corps humain au profit de la personne. Notion abstraite, servant en quelque sorte de masque au corps sur la scène juridique. » Les difficultés d'appréhension du corps humain par le droit, poursuit-il, viennent d'une part de l'impossibilité de le réduire à l'une des deux catégories fondamentales du droit civil, les personnes,
et les choses. C'est d'ailleurs souvent le problème du droit français qui compartimente les éléments. D'autre part, ajoute-t-il, il n'est pas aisé de trancher la question de savoir si l'on est un corps ou si l'on a un corps dont on serait propriétaire, être ou avoir. Le corps est-il le prolongement de la personne ou constitue-t-il une chose ? Dans « Sillage encore », un autre auteur publiciste ajoute, René Cabrillac, « Si la thèse de la propriété a encore des défenseurs, la doctrine majoritaire considère le corps comme le substratum de la personne. » Et Xavier Bioy de dire et d'ajouter, je le cite, « L'on assiste aujourd'hui à un mouvement de réincarnation du droit sous l'influence de multiples facteurs. » Dans la mouvance des idées de mai 1968, s'est faite jour une forte revendication à la liberté de disposer de son corps. Alors je vous propose que nous envisagions d'abord la voie dans le cadre de cette liberté de disposer de son corps, et puis on s'intéressera ensuite à ces plusieurs autres protections juridiques et qui se superposent. La liberté de disposer de son corps d'abord. Là encore, comme l'indique Xavier Bioy, si l'inviolabilité protège l'intégrité de la personne et de son corps, l'indisponibilité signifie que le corps est hors de commerce. On parle alors de sa non-patrimonialité. Mais ce dernier principe souffre de plus en plus de tempérance. C'est un recul du sacré auquel nous assistons aujourd'hui, sous l'effet des progrès de la science, sous l'effet aussi du mercantilisme, à tel point qu'il est devenu banal aujourd'hui de parler de réification du corps. Alors, à condition bien sûr de la réunion de quatre éléments, le consentement, l'anonymat, la gratuité et l'intérêt médical. Le principe de l'indisponibilité du corps, longtemps mis en avant par la doctrine civiliste, a été pris en défaut par de nombreux faits, et je pense là aux contrats des sportifs de très haut niveau, les contrats d'assurance, le contrat médical, etc. Il n'existe donc pas véritablement d'indisponibilité du corps qui découlerait des articles 16 et suivants du Code civil, mais plutôt un principe de non-patrimonialité des conventions prenant objet sur le corps. Donc, la lutte contre la marchandisation du corps humain et ses éléments compris a pris le pas sur le principe de l'indisponibilité des corps. Du reste, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de Strasbourg, a depuis affirmé un principe à disposer de son corps dans un arrêt KA et AD contre Belgique qui a fait beaucoup parler de lui, un arrêt de 2005 qui portait sur les pratiques sadomasochistes. Dans l'absolu, le droit de disposer de son corps sous-entend une pleine maîtrise de ce dernier. Mais c'est faux. C'est faux, tout d'abord, ce droit n'existe que dans la mesure où sont respectés les principes d'inviolabilité et d'indisponibilité du corps. Et force est de constater, avec Daniel Borillo par exemple, que le droit de la bioéthique et le droit tout court continuent de se fonder sur une méfiance quant à la capacité des personnes, de vous, de moi, à disposer de leur vie. Ça parle aujourd'hui dans le contexte de cette réflexion sur l'euthanasie et de l'indisponibilité à disposer de leur corps. Dans ce domaine, la liberté, au fond, demeure l'exception. Et quant à la Cour européenne, elle appréhende essentiellement les questions relatives au droit à disposer de son corps sous l'angle de la vie privée. Notion extrêmement large, une notion attrape-tout, comme le disent aussi beaucoup d'auteurs spécialistes de droit européen des droits de l'homme. Au sujet de non-patrimonialité du corps, il faut en tout cas avancer sur le sujet avec finesse, car cela ne saurait dire que tout point de contact entre l'argent et le corps serait ipso facto illégal. Pour entrer encore un peu plus dans le vif de notre sujet, disons tout de suite que le droit à la voix est un avatar du droit de l'image. Lorsqu'on traite du droit de l'image en général, Tout le monde ne pense qu'à l'image visuelle, ce qui est bien naturel vu le sens des mots. Mais il faut savoir qu'on parle aussi d'image sonore, image sonore lorsque un ingénieur du son réalise une prise de son, par exemple. Si nul ne songe à contester la qualité d'auteur à un photographe ou à un cinéaste, on oublie classiquement que l'ingénieur du son détient lui aussi des droits d'auteur sur sa prise de son. Pareillement, le droit à l'image d'une personne physique inclut le droit à sa voix. L'un des deux fondements du droit à l'image est qu'il est un attribut de la personnalité, reconnu par le droit à toute personne physique, vous, moi. Tout être humain possède ainsi des droits sur sa personne, et parmi ces attributs de la personnalité figure le droit de contrôler l'exploitation de son image dès lors que cette image permet d'identifier la personne. Donc, lorsqu'on peut distinguer suffisamment les traits de la personne sur une photographie, par exemple, ou sur une image animée. Rien ne s'oppose à ce que le même raisonnement puisse être tenu pour la voix d'une personne. C'est donc avec une certaine logique que la plupart des juristes connaissent aujourd'hui l'existence de ce droit à la voix, version sonore du droit à l'image, même s'il était jusque-là peu mis en œuvre en justice, mais largement pris en compte dans les contrats de doublage sonore de l'audiovisuel, par exemple. Le droit à la voix avait été un peu agité dans des contentieux concernant les enregistrements dits pirates de certains opéras, notamment avec la voix de Maria Callas, voix et style vocal si caractéristique que tout mélomane, même débutant, la reconnaît. Mais c'est un droit assez peu connu, finalement, même des juristes, et qui démontre que la voix n'est pas encore protégée à l'équivalent de l'image. Comme l'image pourtant, la voix identifie la personne. Elle participe à caractériser l'originalité de chacun. Je vous propose maintenant de vous dire quelques mots de ce droit par le respect de la vie privée, de la voix, autrement dit les droits à la voix. Alors, protection par le droit civil, protection par le droit pénal. Alors, par le droit civil d'abord, par application de ce fameux article 9 du code civil, le droit au respect de la vie privée peut couvrir le droit à la voix et permettre de s'opposer à l'utilisation de son image et de sa voix sans autorisation expresse. L'image, la voix, le nom, c'est ce qu'on appelle les droits de la personnalité. Une partie de la doctrine estime que la jurisprudence, les juges, refusent de protéger la voix de façon autonome et considèrent qu'une personne ne peut prétendre à cette protection que si la reproduction incriminée de cette voix constitue une atteinte à sa vie privée. C'est bizarre comme raisonnement, c'est un peu comme si la voix, par rapport à l'image, était moins digne de protection. L'atteinte est-elle moins grave? Nous ne le croyons pas. Identifie-t-elle moins précisément que l'image? Nous ne le croyons pas non plus. L'utilisation de la voix de quelqu'un, captée abusivement ou imitée habilement, est répréhensible donc. Des arrêts ont été rendus en sens à propos de l'imitation de la voix de l'acteur Claude Pieplu, par exemple, c'était dans les années 75, ou de l'enregistrement de celle du présentateur de télévision Léon Zitrone. Alors c'est vrai qu'on fait un peu dinosaure quand on évoque tous ces gens-là, mais nous, ça nous parle beaucoup. Même si le tribunal de grande instance de Paris a qualifié la voix d'image sonore dans cette fameuse affaire La Callas dans les années 82, le droit à la voix n'a pas pris son autonomie au regard de la protection de la vie privée, pas une totale autonomie en tout cas. La Cour d'appel de Paris, en 2005 par exemple, refuse de sanctionner en elle-même une imitation au motif, je cite la Cour, qu'une personne ne peut prétendre, sur le fondement de l'article 9 du Code civil, à la protection de sa voix considérée comme l'un des attributs de sa personnalité, que si la reproduction incriminée constitue une atteinte à la vie privée. Alors l'affirmation de l'absence d'autonomie du droit à la voix par rapport au droit au respect de la vie privée paraît contestable aujourd'hui et difficilement compréhensible. J'en veux pour preuve un exemple clair, 1982 justement, l'affaire Callas. En 1980, dans une émission de Radio France Musique, sont diffusés des extraits d'enregistrement de la voix de Maria Callas. Des extraits personnels que, selon ses héritières, elle ne souhaitait pas rendre publics. Le tribunal de grande instance de Paris conclura, je la cite, que la voix est un attribut de la personnalité, une sorte d'image sonore, dont la diffusion sans autorisation expresse et spéciale est fautive. Les enregistrements ne révélaient rien sur des éléments de la vie privée de Maria Callas. Le droit à l'image d'une personne physique inclut donc également, et là, sans aucune interprétation, le droit à la voix et sans condition aucune. Alors, il y a évidemment d'autres exemples dans la jurisprudence, mais je préfère avancer un petit peu pour vous parler maintenant du volet pénal de cette protection. La voix, elle est protégée donc hein, par le droit civil, mais aussi par l'article, alors très précisément, 226-1 du code pénal qui interdit et qui sanctionne les enregistrements portant atteinte à l'intimité de la vie privée. Enregistrer, reproduire ou même tout simplement imiter la voix d'un tiers porte atteinte à la personnalité de celle-ci. Et cette protection, elle concerne les personnes connues, dont la voix est évidemment reconnaissable, mais aussi les personnes anonymes, vous, moi. Il suffit pour elles, par exemple, pour nous, anonymes, de pouvoir être identifiés par les membres de notre famille ou par nos proches. Et ce principe, il ne souffre qu'une seule exception, l'imitation de la voix d'une personne célèbre dans un but de parodie. Cette imitation, elle est licite lorsque la voix imitée est celle d'un artiste ou lorsqu'elle porte sur la voix d'une personne publique, car elle semble alors être tolérée par les usages. Cependant, sans autorisation, l'imitation de la voix d'une personne, y compris d'un acteur, est illicite dès lors qu'elle a une finalité commerciale. Et notamment lorsqu'elle laisse croire que la personne imitée cautionne un produit ou un service à des fins publicitaires. Et là, je vais vous parler d'un cas, Cyril Mazzotti, dont vous avez probablement entendu parler, qui est venu ramener sous les projecteurs de l'actualité le bon vieux droit à la voix dont presque personne ne parle, sauf nous aujourd'hui, et qui pourtant est une réalité juridique tangible. Alors, Cyril Mazzotti, c'est un comédien français qui s'est aperçu fortuitement que sa voix était devenue celle de Siri, ce logiciel de reconnaissance et d'échange vocal de l'iPhone dans les versions 5 et 6. Il avait été rémunéré pour prêter sa voix à une application de synthèse vocale incluse dans un logiciel Nuance, tout en nuance d'ailleurs. Il a été rémunéré à la journée de lecture pour cette seule finalité. Nuance a ensuite cédé ses enregistrements vocaux à Apple, qui les a intégrés dans Siri, sans rémunération supplémentaire et sans en avertir le propriétaire de la voix, qui a donc découvert un jour par hasard que toutes les fois que Siri parlait à l'utilisateur d'un iPhone, y compris lui, c'était lui qui parlait. Là-dessus, Apple médiatise les noms des personnes qu'il a engagées pour prêter leur voix à la nouvelle version Siri 7. Et l'on apprend que ces voix seront payées 100 000 dollars par an pendant 2 ans, soit 10 à 12 fois plus que ce pauvre Cyril Mazzotti. On comprend son mécontentement, mais il semble en avoir pris son parti face aux 50 avocats de Nuance, tout en Nuance donc, sans parler de la puissance d'Apple. Et pourtant, le droit à la voix lui aurait donné probablement une voix, sans jouer sur les mots, de recours possible. Alors, on va quitter la vie privée pour envisager désormais rapidement la voix sous le volet du droit d'auteur, par le biais donc de cette protection de la propriété intellectuelle, le droit d'auteur et donc ses droits voisins. Et là, on est sur les droits sur la voix. Si le droit d'auteur protège les œuvres littéraires et artistiques, les créations musicales, graphiques, plastiques, les logiciels, les créations de mode, les artistes interprètes, les producteurs de vidéogrammes et de phonogrammes, les entreprises de communication audiovisuelle sont, eux, protégées par ce qu'on appelle les droits voisins du droit d'auteur. Les artistes de doublage, impliquant l'utilisation de la voix dans un cadre spécifique, sont des professionnels qui se voient reconnaître le statut d'artiste-interprète. Comme vous le savez, le doublage permet de substituer aux dialogues originaux des dialogues dans une autre langue. Les artistes de doublage interprètent donc vocalement un rôle en tentant de rendre toute la crédibilité du personnage d'origine. S'agissant d'une interprétation, on peut donc se poser la question du droit voisin de ces artistes de doublage. En effet, ce code de la propriété intellectuelle reconnaît un droit de propriété littéraire et artistique à l'interprète qu'il définit comme une personne, je cite, qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variété, de cirque ou de marionnette. En pratique, les droits voisins protègent donc l'interprétation de ce qu'on appelle une œuvre de l'esprit par un artiste-interprète. Alors si dans certains domaines, le statut d'artiste-interprète semble relativement aisé à faire reconnaître, dans d'autres, comme par exemple celui de la publicité, c'est moins évident. Alors en 95 par exemple, un artiste a prêté son concours à l'enregistrement de sa voix afin d'intégrer un slogan publicitaire de la marque Uncle Ben's, c'est toujours un succès, à un spot télévisé en doublant le personnage apparaissant à l'écran. Réclamant des suppléments de rémunération au titre de l'utilisation de sa voix et revendiquant un droit d'artiste-interprète, le comédien a saisi le conseil des prud'hommes qui l'a débouté de toutes ces demandes. Dans un arrêt rendu en 2008, la Cour d'appel de Versailles a rejeté la qualité d'artiste-interprète à ce comédien et retenu en revanche celle d'artiste de complément en retenant, je la cite, que quelle que soit son expérience de comédien, il était inconnu du grand public et il ne peut dès lors se prévaloir d'une notoriété telle qu'elle lui conférerait, indépendamment des caractéristiques de sa prestation, le statut d'artiste-interprète. Le statut d'artiste de complément, c'est donc un autre statut qui peut être reconnu aux personnes voyant leur voix exploitée à l'occasion d'un enregistrement. Mais toutefois, et à l'inverse de l'artiste-interprète, celui-ci n'a pas de droit voisin, ce qui peut impliquer une différence financière. Cet artiste de complément, il n'est payé que de manière forfaitaire. Ainsi, si le droit à la voix est un droit de la personnalité et par conséquent extra-patrimonial, l'exploitation commerciale de celle-ci peut revêtir un caractère pécuniaire et donc patrimonial. En revanche, je vais vous donner un exemple maintenant de confirmation de la qualité d'artiste-interprète du chanteur du texte de la bande originale du film Les Bronzés font du ski et que tout le monde connaît. Moi, j'adore personnellement, mes enfants aussi. Un chanteur avait saisi le conseil des prud'hommes afin de se voir reconnaître la qualité d'artiste-interprète de la bande originale du célèbre film humoristique Les Bronzés font du ski. La société de production, condamnée en première instance à verser 65 000 euros de dommages et intérêts aux demandeurs, avait fait appel. Et les juges saisis avaient ordonné une expertise afin de déterminer si le chanteur était bien l'interprète du texte de l'œuvre musicale. Les juges retiennent qu'il résulte du rapport d'expertise ainsi que des explications des parties à l'audience que la chanson comportait trois voix de chœur féminine, vous la réécouterez, et une voix de soliste chantant le texte de la chanson, caractérisée par une voix dont la tessiture apparaît comme étant celle du requérant. Les juges ont retenu donc une atteinte au droit patrimonial et moral de cet artiste du fait de l'exploitation de la chanson sans son consentement par la société de production. Enfin, du côté des données personnelles et de la protection accordée par ces données à la voix, alors ce fameux règlement général sur la protection des données, dont l'acronyme affreux est RGPD, ça fait un peu service de renseignement, hein ? Alors le RGPD définit une donnée à caractère personnel comme une donnée pouvant permettre d'identifier une personne. La voix étant spécifique à chaque personne, elle peut permettre d'identifier cette personne et elle doit par conséquent être considérée comme une donnée personnelle. Le 11 mars 2009, le tribunal de première instance des communautés européennes a jugé qu'une personne peut effectivement être identifiée sur la base de sa voix et la voix doit donc être considérée comme une donnée personnelle. Cette interprétation, elle est aussi partagée par la CNIL, hein, notre autorité administrative indépendante qui s'occupe de ce domaine, cette autorité de contrôle française. Donc, la CNIL a considéré la voix comme une donnée personnelle, notamment lorsqu'elle a sanctionné, par exemple, le vendeur en ligne partout, car les appels téléphoniques avec les clients étaient systématiquement enregistrés, vous le saurez, ce que la CNIL a considéré comme une conversation excessive et conservation excessive de données personnelles. Mais les données vocales ne sont pas des données comme les autres, et Suzanne Vergnol, qui est une juriste spécialisée sur ces questions-là, rappelle à cet égard que la voix elle-même bénéficie d'une protection juridique. L'exploitation des données vocales pour la fourniture de produits innovants, comme des assistants vocaux, sera dès lors soumise à ce fameux règlement général sur la protection des données. Les informations communiquées, complètes, claires, dans des termes accessibles aux clients du service, doivent être précises quant aux finalités des traitements effectués. Attention donc aux descriptions trop générales de ces finalités, motif pour lequel Google a été condamné à 50 millions d'euros d'amende par la CNIL. Le principe selon lequel la durée de conservation des données doit être en conformité avec les finalités est extrêmement clair aussi. Le délai écoulé, les entreprises doivent dès lors supprimer ces données. Alors en conclusion... Alors là, je tente un truc de dingue. Je ne l'avais jamais fait. Toc, toc, toc. Ça doit être pas mal, là. Il est à imaginer que la voix et ses utilisations étant en plein essor, la voix robotique, la voix synthétique qui nous entoure de plus en plus, le droit va devoir la protéger davantage et à la même hauteur, exactement à la même hauteur que l'image, notre image. Et comme nous l'avons évoqué en droit, je vous propose maintenant pour conclure de l'écouter en voix. La calasse. Oh!